Aloha Weekend. Youpi!
Et on aime l'été parler de la réalité des agriculteurs, agricultrices qui sont à l'écoute. Je sais que vous êtes nombreux, nombreuses et que faut garder en tête que les légumes, ça ne pousse pas dans les allées du supermarché. Il y a des gens qui travaillent fort pour ça. Et on aime bien ça, jaser de tout ça. Des histoires de ferme avec David Simard de la ferme Simard.
Histoire de ferme.
David, comment ça va?
Ça va bien, vous autres aussi?
Ben oui, ça va bien. Donc, tu sais, David, ce qui est le fun, toi, c'est qu'on le sait que peu importe l'heure à laquelle on va t'appeler, le matin, tu vas être debout.
Je suis là, toujours au poste.
À quelle heure ça se lève, un agriculteur?
Ah, ben écoute, ça dépend des matins, là. Quand ça presse plus, 4h, 4h et quart. Quand ça presse moins, 5h, 5h et quart, à peu près, là.
Ah, j'aurais dû. Tu sais, tantôt, je disais à Mathieu, on faisait le pacing, justement, mais tu sais, je vais quand même garder une petite gêne. Je le texterai pas avant 6h30, tu sais.
C'est 6h30, on est dans le champ, là, peu importe. Là, fait que...
Il n'y a pas d'inquiétude de ce bord-là.
Non, vraiment pas.
David, on a vu dans les nouvelles aujourd'hui, c'est dans la presse notamment, on parle plus de la grande région de Montréal, mais des fortes pluies qu'il y a eu dans les derniers jours. Ça fait en sorte qu'il y a des champs qui sont inondés, particulièrement Saint-Roch-de-la-Chigan, par exemple, qui est cité dans l'article du journal. Est-ce qu'on a vécu la même situation ici à Québec?
Oui, ben quand on s'est parlé il y a 2 semaines, là, je disais que bon, on avait été épargné pour Québec, là, tout ça, mais la semaine dernière, là, on y a passé. Moi, sur la côte de Beaupré, Rive-Nord, tout ça, c'était moins pire. Je dirais que j'ai eu peut-être 40 à 60 millimètres, mais la rive sud a été fortement touchée la semaine dernière, là, des champs de fraises détruits sur la rive sud, là. Ils ont eu peut-être un 120, 130 mm de pluie là, sur une période de peut-être 3-4 jours. Là, donc, ouais, on y est passé, nous autres aussi.
Hey, je veux savoir, ça affecte-tu le prix directement, ça? T'sais, parce que normalement, c'est l'offre et la demande, mais sachant, mettons, qu'il y a des agriculteurs qui produisent moins, est-ce qu'il y a un impact sur le petit panier de fraises automatiquement là?
Je dirais qu'au détail, possiblement que vous n'avez pas trop vu la différence. Mais dans le marché de gros, là, puis tout ça, là, probablement que le prix a changé un peu. Je suis moins au courant de ce qui se passe dans le gros. Moi, je suis un petit producteur. Mais c'est sûr et certain que ça a affecté l'offre beaucoup. Là. Nous, la saison des fraises d'été, là, il nous en reste là, pour quelques jours, peut-être rendre au week-end, là, mais après ça, ça va être pas mal terminé. Puis dans la région de Québec, ça, on a toujours un petit trou entre les fraises d'été et les fraises d'automne. Là. Fait que dans les prochaines. Peut-être pas cette semaine, la semaine prochaine, vous pourriez peut-être voir un petit peu de rareté apparaître, là, dépendamment de la météo. Là.
Donc ça, pour ce qui est de la météo, ça fait le tour du dossier. Tu sais, c'est sûr que chaque fois qu'il pleut, on se dit « Ah, ça va faire du bien aux légumes, ça va faire du bien aux fruits », mais des fois, c'est trop. Il faut quand même souhaiter qu'il y en ait pas trop.
De dimanche, ouais. Les orages de dimanche, je regardais à la fenêtre, puis je disais à Hello, je disais « Écoute, je pense que les fraises, ça va pas mal être le dernier trou dans le cercueil, parce que il mouillait très fort, là, mais finalement, c'est pas si mal. On va faire encore ça.
Parfait.
C'est toujours inquiétant.
Il y a un autre dossier dont on voulait parler parce que, tu sais, c'est sûr que ça fait beaucoup, beaucoup jaser aux États-Unis en ce moment. Eux, ils ont leurs enjeux, ils ont leurs affaires. Puis tout ça, au Canada, c'est pas la même chose. On le vit pas de la même manière, mais que ce soit aux États-Unis ou au Canada, il y a beaucoup de travailleurs qui viennent ici pour nourrir leur famille, en fait, mais qui viennent de l'extérieur.
Mais prêter main forte aux agriculteurs aussi.
Beaucoup d'immigration. Ouais. Toi, c'est une réalité que tu vis depuis plusieurs années.
Oui, absolument. J'ai été plus lent à embarquer dans le train, si on veut, là, mais depuis 2020, j'ai des travailleurs étrangers, puis on pourrait pas se passer de ces gens-là, là, c'est clair. Ici, la différence majeure qu'on a avec les États-Unis, c'est que tout est fait légalement, donc tout le monde a des papiers, tout le monde est ici, tout le monde est protégé par les normes du travail, tout le monde est un peu équitable, si on veut, là. Aux États-Unis, il y a une grande proportion des travailleurs étrangers qui sont des immigrants illégaux. Puis ça brasse beaucoup là dans le coin d'Oxnard, en Californie. Là, la semaine passée, il y avait des émeutes, tout ça, là, avec les travailleurs étrangers, là, donc. C'est ici, on est très, très, très content d'avoir une certaine stabilité.
Non, c'est ça. Puis tu as parlé de la légalité de la chose, puis l'accueil aussi, puis les normes du travail aussi. Tu sais, c'est une autre façon, parce que des fois, on voit des articles qui parlent des États-Unis, puis il ne faut pas faire un amalgame avec ce qui se passe ici. C'est pas la même chose. Mm. Puis, tu sais, veux pas, il y a des travailleurs qui doivent revenir année après année chez vous, là.
Oui, c'est ça. Une fois qu'on les accueille pour une première année, là, c'est nos employés, en fait. Ils ont des permis de travail. Ces permis-là sont fermés à notre entreprise. Puis nous, ben, tant que ce sont des bons employés, ben on les garde. Donc, c'est toujours les mêmes qui reviennent à chaque année. Puis, souvent, quand on a besoin, là, disons, de travailleurs supplémentaires, là, c'est toujours, bon, avec les familles des travailleurs, fait que le frère, le père, le cousin, puis là, ça crée une belle ambiance de travail. Puis, pour eux, c'est moins ennuyant là, de s'éloigner de leur famille pendant 5-6 mois quand la moitié de la famille est avec eux ici au Canada. Là, fait que ça... les travailleurs étrangers, c'est vraiment la solution pour nous.
Est-ce que tu dois les prendre en charge, c'est-à-dire de les aider pour qu'ils se placent, qu'il y ait une place pour rester, vivre finalement?
Oui, c'est le logement. On doit fournir obligatoirement le logement. Puis la première étape dans le processus d'embauche des travailleurs étrangers, c'est l'inspection du logement. Donc, on fait affaire avec une agence, ils nous envoient un inspecteur, puis on doit respecter les normes de Service Canada pour les logements. Il y a quelques années, ça avait fait les manchettes, qu'il y avait une entreprise qui avait négligé un peu les logements des travailleurs. Là. Et ça, c'est vraiment pas la norme dans l'industrie. Puis même depuis ces événements-là, les agences sont très, très, très pointilleuses là, au niveau des inspections. Donc, on se doit de respecter un minimum de commodité, si on veut, là, pour nos employés.
Puis dis-moi, une fois que tu engages ces gens-là, c'est sûr qu'ils vont te prêter main forte, ils vont vraiment comme aider à la production, mais est-ce que tu aurais pu trouver la main-d'œuvre ici au Québec ou c'est vraiment une réalité où on a besoin de personnes de l'extérieur?
Je pense qu'on est rendu à un point où il n'y a plus assez de main-d'œuvre au Québec. Nous, au niveau des salaires, on n'est vraiment pas compétitif. Puis c'est 7 jours sur 7 sur les fermes, quand c'est le rush, les fermes de fraises, tout ça, et à chaque jour, il faut récolter. Au Québec, on est habitué à certains standards, à une certaine qualité de vie. C'est très difficile de trouver des employés qui vont accepter, disons, de faire 7 jours sur 7 ou 6 jours sur 7. Travailler des longues heures par semaine à un salaire minimum, disons. Fait que c'est plus des emplois qui sont attrayants pour la population québécoise, ce qui fait en sorte qu'il y a la population mexicaine, guatémaltèque qui saute sur ces opportunités-là parce que pour eux, c'est un travail de rêve.
Et là, ton espagnol se porte bien?
Mon espagnol est très bon. Ça fait un mois et plus qu'ils sont arrivés, fait que je suis bien dérouillé. Je suis pas allé en vacances dans le sud cet hiver, fait que j'avais pris un peu de rouille là-dessus. Là. Ça me prend tout le temps une couple de semaines pour m'en remettre là, quand ils arrivent. Ça va bien, c'est fluide.
Mais c'est le fun, ça. Tu es capable aussi de jaser avec eux autres et pouvoir en apprendre plus. Puis justement, de faire en sorte que toute la famille qui vient travailler aussi. Donc, c'est le fun de comprendre un peu mieux la réalité puis pourquoi ces travailleurs-là sont essentiels pour les agriculteurs ici. David Simard, de la ferme Simard, toujours le fun de jaser. Puis on va te souhaiter juste assez de pluie, juste assez de soleil.
L'équilibre.
Oui, c'est ça, l'utopie de la météo parfaite. Ça va être nos prochaines semaines. C'est comme ça que ça va se passer.
C'est ce qu'on se souhaite. Merci beaucoup, David.
Merci.
Quelqu'un qui dit bravo et salutations à tous les fermiers par texto.
Absolument.
Évidemment, on aime ça parler de ce qui se passe sur la ferme.
Histoire de ferme. On te dirait que t'es belle.